Radio Prague, les informations.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague, une actualité dont voici les principaux titres, une actualité qui est d'abord toujours dominée par l'affaire Babiš. Un deuxième rapport d'audit de la Commission européenne est en effet arrivé à Prague. Invasion de la Tchécoslovaquie en 1968, les députés tchèques ont qualifié d'abject le projet de loi présenté à la Douma russe. Et puis enfin, pour le 75e anniversaire du débarquement en Normandie, Emmanuel Macron a rendu hommage aussi aux soldats tchécoslovaques. On commence donc avec de la politique, un deuxième rapport d'audit provisoire de la Commission européenne, rapport relatif aux subventions agricoles versées au groupe Agrofert, est arrivé en République tchèque. L'information a été communiquée par le porte-parole de la représentation permanente de la République tchèque auprès de l'Union européenne. Comme le premier rapport, ce document pointe du doigt la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouve le Premier ministre tchèque Andrej Babiš, ancien propriétaire d'Agrofert. La République tchèque pourrait ainsi être contrainte de rembourser les subventions accordées à Agrofert depuis février 2017, date quand Andrej Babiš, alors ministre des Finances, avait placé ses actifs dans deux fonds fiduciaires, et ce suite à l'entrée en vigueur en République tchèque de la loi sur les conflits d'intérêts. Et puis toujours dans le cadre de cette affaire, le Fonds national d'intervention pour l'agriculture va suspendre le versement des subventions accordées au groupe Agrofert depuis février 2017, et ce dans le cadre de différents projets. C'est en effet à ce moment-là, comme on vient de le dire, que l'actuel Premier ministre a placé ses actifs dans deux fonds fiduciaires. Jusqu'à présent, quelques 63 millions de couronnes de subventions ont été versées à Agrofert pour financer 12 projets. Par ailleurs, la même décision a été prise pour le ministre de l'Agriculture, Miroslav Toman, membre du Parti social-démocrate dont la famille est propriétaire de plusieurs entreprises. La Chambre des députés tchèques a qualifié de tentative abjecte de légitimer l'invasion de la Tchécoslovaquie en août 1968. Le projet de loi présenté récemment à la Douma, le texte en question, défend l'idée que les troupes soviétiques qui ont envahi la Tchécoslovaquie ont agi pour contrer un coup d'État en Tchécoslovaquie. Le texte prévoit également d'accorder le statut d'ancien combattant aux soldats ayant participé aux opérations. Selon les députés tchèques, qui se disent extraordinairement inquiets et ont rappelé que l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie avait constitué une violation du droit international. Cette volonté de leurs homologues russes pourrait aboutir à une détérioration des relations entre la République tchèque et la Russie. Dans son discours prononcé ce jeudi à l'occasion des cérémonies du 75e anniversaire du débarquement allié en Normandie, Emmanuel Macron a rappelé le rôle des soldats tchécoslovaques qui ont participé à la libération de l'Europe, alors sous le joug nazi. La France n'oublie pas, a déclaré notamment le président français. Rappelons que ce sont essentiellement les pilotes tchécoslovaques qui ont opéré dans le ciel de la France et au-dessus du canal de la Manche. Une brigade blindée tchécoslovaque a ensuite participé sous commandement britannique au siège de Dunkerque, et ce d'octobre 1944 jusqu'à la capitulation allemande en mai 1945. On termine avec un mot de météo. Après une journée de jeudi marquée par un temps variable et de violents orages dans certains endroits du pays, les nuages restent très présents sur l'ensemble du territoire. Ce vendredi, jour de la fête des Iveta et Slavoj, des averses ou des orages restent possibles un peu partout. Les températures sont en légère baisse puisqu'elles varient entre 24 et 28 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. On poursuit cette émission avec Colin Gruel.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Au sommaire de la deuxième partie de ce programme, Alexis Rosenzweig reviendra sur le dernier rapport d'audit de la Commission européenne, un rapport qui éclabousse le Premier ministre Andrej Babiš, mais pas seulement. Ce 6 juin, on célèbre les 75 ans du débarquement en Normandie, et on en parlera avec Magdalena Hrazinkova. Et puis samedi, ce sera la 16e nuit des musées, la Plaszka Muzejny Noc, qui propose cette année encore un très vaste programme. On vous aide à composer le vôtre en fin d'émission. Allez, bonne écoute. La France et ses alliés célèbrent ce jeudi 6 juin le souvenir du débarquement et de la bataille de Normandie. Des dirigeants politiques, mais aussi des amateurs d'histoire venus du monde entier, y compris de République tchèque, sont venus rendre hommage aux plus de 150 000 soldats alliés qui ont débarqué le jour J sur les plages normandes dans le cadre de l'opération Overlord. Celle-ci a été surveillée par les pilotes tchèques et slovaques. Magdalena Rezinkova.
Jedeme Jeepem Willys, ten se je vyroben v roku 42.
Une centaine de Tchèques ont assisté comme un simple spectateur aux célébrations du débarquement allié du 6 juin 1944, qui a représenté le tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale. Au cimetière de Colville-sur-Mer, j'ai rencontré des dizaines de mes concitoyens venus de tous les coins de la République tchèque, a rapporté le correspondant de la télévision tchèque en France, Jan Schmidt. Son confrère de la radio tchèque, Martin Balocha, a rencontré les passionnés d'histoire du Military Car Club de Plzeň en Bohême de l'Ouest. Avec une quarantaine de véhicules historiques transportés depuis la Tchéquie à bord de trois camions, ils ont campé à proximité de la fameuse plage Omaha Beach, celle qui a provoqué le plus lourd bilan des pertes du jour J. Installés au camping Portland, les amateurs d'histoire de Plzeň ont hissé tous les matins le drapeau tchèque. Rudolf Bayer, le président du Military Car Club, participe aux célébrations du débarquement allié pour la quatrième fois.
C'est magnifique. On peut voir partout des voitures militaires et des gens habillés en costumes d'époque. C'est vraiment une ambiance exceptionnelle. Nous sommes survolés par des Hercules et des Chinooks. On assiste aussi à des exercices d'Américains et d'Anglais qui se préparent aux célébrations. Il y a tout le temps quelque chose d'intéressant à voir.
Američani cvičejí, Angličani cvičejí, prostě připravují se na toho 6., takže je tu na co koukat.
Les commémorations ont débuté ce mercredi avec une cérémonie britannique à Portsmouth en présence d'Emmanuel Macron, de la reine Elisabeth II, de Donald Trump et d'autres chefs d'État et de gouvernement. Parmi eux, le premier ministre tchèque Andrej Babiš. Au cimetière de Chichester, il a rendu hommage à une dizaine de pilotes tchécoslovaques, un membre de la RAF britannique qui ont péri au cours des préparatifs du débarquement de Normandie. D'autres pilotes ont participé directement à l'opération en assurant la couverture aérienne des forces d'invasion. Il y a 5 ans, à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement, l'historien Eduard Stehlik expliquait sur Radio Prague les raisons de cette participation plutôt faible des Tchécoslovaques à l'opération Overlord.
Effectivement, aucune unité de l'armée tchécoslovaque, et je pense là aux unités de terre de notre brigade blindée en Grande-Bretagne, n'a participé à la première vague d'invasion du continent. Cela ne signifie pas que les alliés n'avaient pas confiance en nos soldats ou qu'ils étaient moins bons que les autres. En fait, cette brigade avait des effectifs limités et en cas de perte importante dans les combats, il n'y aurait pas eu d'autres tchèques et slovaques pour remplacer les soldats morts. La brigade a donc été prête pour une autre mission qui lui a été confié un peu plus tard, le siège du port de Dunkerque.
Une plaque commémorative en hommage aux soldats tchécoslovaques qui ont participé au combat en Normandie sera dévoilée ce vendredi au musée du débarquement d'Arromanches.
On poursuit avec ce nouveau rapport préliminaire d'audit de la Commission européenne cette semaine, cette fois-ci concernant le secteur de l'agriculture. En studio pour en parler avec nous, Alexis Rosenzweig de la rédaction de Radio Prague. Bonjour.
Bonjour, Colin.
Alors, si je comprends bien, Alexis, on prend les mêmes et on commence.
On ne peut rien vous cacher, en effet, parce que comme le rapport de la semaine dernière, eh bien, comme dans ce rapport, c'est à nouveau le groupe agrochimique Agrofert, fondé par l'actuel Premier ministre Andrej Babiš, qui est au centre de l'attention. Et ce nouveau rapport se penche également sur le potentiel conflit d'intérêts du ministre de l'Agriculture, Miroslav Toman, dont le frère et le père sont des acteurs non négligeables du secteur. Alors, première conséquence, ce jeudi, eh bien, le Fonds public agricole suspend toutes les subventions attribuées à Agrofert et aux sociétés de la famille Toman. Alors, le cas Babiš est assez exceptionnel en Europe. C'est ce que nous confirme Éric Maurice, il est directeur du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman.
C'est un cas particulier du point de vue des institutions européennes et notamment la Commission européenne, dans la mesure où il s'agit d'un chef de gouvernement il n'est pas inhabituel de voir des responsables politiques mis en cause dans des affaires de corruption ou de détournement de fonds européens. On a vu cela récemment en Roumanie avec Liviu Dragnea, qui était le chef du parti social-démocrate roumain, mais qui n'était pas... Son parti était au pouvoir, mais lui-même n'était pas Premier ministre pour des raisons de condamnation précédente. Mais là, Andrei Babiš, il est Premier ministre. C'est lui qui siège au Conseil européen à Bruxelles. C'est lui le dirigeant du gouvernement de la République tchèque. Et dans ce cas précis, c'est une première, puisque nous avons un chef de gouvernement qui est aussi plus ou moins directement chef d'entreprise avec un conflit d'intérêts clair selon ce qu'on l'on sait des évaluations de la Commission européenne. Et cela, c'est même à l'époque de Berlusconi en Italie, qui lui-même avait quand même beaucoup d'entreprises et beaucoup d'intérêts économiques. Même au temps de Silvio Berlusconi, on n'avait pas vu ça depuis Bruxelles.
Du jamais vu, même du temps de Berlusconi. Pourtant, au vu du parcours d'André Babiš et de la taille de son groupe Agrofert, le groupe qu'il a fondé, eh bien, les constatations établies par l'audit européen ne sont pas vraiment surprenantes. Martin Michelot est également basé à Bruxelles, où il représente l'Institut tchèque Europeum. On l'écoute.
Est-ce qu'aujourd'hui, un milliardaire ou millionnaire quelconque peut être dirigeant politique sans, à un moment... arriver à une situation qui pourrait ressembler à un conflit d'intérêts. C'est sûr que quand le groupe Agrofert a une telle position dominante sur plusieurs secteurs clés de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie chimique, de l'industrie des énergies fossiles, évidemment, il y a un moment où on se pose cette question. Qu'est-ce que Babiš aurait pu faire de plus? Je pense qu'il aurait au moins pu avoir une défense qui soit... beaucoup plus ouverte, en disant ce sont les démarches que j'ai entreprises pour me prémunir de tels conflits d'intérêts, ce sont les groupes que j'ai mis, de groupes de travail ou les groupes d'experts que j'ai mis en place pour s'assurer que je ne toucherai de près ou de loin à aucune décision en ce qui concerne les intérêts économiques de mon groupe liés au fonds européen. Et là, il aurait été à la fois honnête, mais il aurait aussi montré qu'il aurait été proactif sur ces questions-là, plutôt que d'en arriver à des problèmes où on est un peu comme en France sur la grande discussion du rang l'argent. La défense de Babiš fait en sorte que c'est lui qui va devoir rendre l'argent, parce que c'est lui qui en a profité directement.
Alors, les rapports d'audit de la Commission européenne dont on parle ces derniers jours sont des rapports préliminaires seulement. Qu'est-ce qui doit se passer ensuite? Eh bien, réponse d'Éric Maurice de la Fondation Schuman.
Alors, c'est un processus qui dure souvent assez longtemps, parce que la méthodologie, c'est d'abord les fonctionnaires de la Commission européenne ou de l'OLAF, c'est-à-dire l'Office de lutte antifraude, ou alors des différentes directions générales de la Commission, regardent les faits, regardent les chiffres, regardent un petit peu où est allé l'argent, regardent comment il est utilisé, selon quels critères. Et ensuite, il y a un dialogue qui s'engage avec le gouvernement, l'État ou les personnes mise en cause dans le rapport, et donc le rapport ne sera finalisé que lorsque la Commission aura eu un aller-retour d'arguments, de faits, de justifications avec le gouvernement tchèque et en l'occurrence avec son Premier ministre, à la fois en tant que chef de gouvernement et que dirigeant d'une entreprise, ou en tout cas lié à ces trusts qu'il a mis en place depuis 2017. Donc cela peut prendre effectivement beaucoup de temps. La Commission européenne actuellement voudrait probablement clore le processus après l'été, c'est-à-dire avant la fin du mandat de la Commission actuelle, pour que les affaires puissent suivre, ne soient pas bloquées par le changement de la Commission européenne, qui normalement doit avoir lieu le 1er novembre.
Pour l'instant, la réponse du Premier ministre tchèque Andrej Babiš à ces nouveaux rapports d'audit a été cinglante. Tout en refusant de rembourser la moindre somme, il considère tout ça comme, je cite, « une attaque contre la Tchéquie et contre les intérêts du pays ». Une ligne de défense pas très nouvelle, selon Martin Michelot.
C'est une défense qui n'est absolument pas originale. On l'entend de la bouche de toutes les personnes qui sont potentiellement mises en cause par l'Union européenne. Ça a pu être le Premier ministre hongrois, ça peut être le Premier ministre slovaque Robert Fico à l'époque.
Qui n'ont, eux, pas été directement et personnellement soupçonnés de fraude aux subventions européennes et de conflit d'intérêts. Il y a quand même un cran passé par le cas André Babiš, on peut dire.
Oui, absolument. Là, c'est très clair que le cran est passé à la fois dans son exercice personnel du business, donc avec le cas du litigogne, mais aussi avec le cas de la prise illégale d'intérêt ou du conflit d'intérêt qui est celui qui semble être avéré aujourd'hui. En effet, il y a des limites qui sont dépassées, mais ce qui est inquiétant dans la défense de Babiš principalement, c'est que une attaque contre lui semble être une attaque contre le pays. Et c'est vrai que cette transsubstantiation de Babiš qui se met à la place du pays est relativement inquiétante, parce que si Babiš devait être mis en cause, le pays ne s'arrêterait pas pour autant de fonctionner. Donc c'est quand même relativement révélateur et relativement symbolique de la manière dont il se perçoit, de la manière dont il perçoit le pouvoir, et aussi dans une certaine mesure, je trouve qu'il voit la République tchèque de manière très faible, et il a un peu un syndrome qui est un peu inquiétant, vraiment de se mettre à la place du pays, de dire « le pouvoir, c'est moi ».
Merci Alexis Rosenzweig. Quant aux potentielles conséquences de ces derniers développements sur la position de la Tchéquie et d'Andrei Babiš, ce sera l'un des sujets abordés dans notre émission de demain. De la culture pour refermer cette émission, ce samedi 8 juin, c'est la nuit des musées à Prague. Un programme titanesque et alléchant, mais dont en une soirée, vous ne pourrez pas faire le tour. Alors pour vous aider à faire votre programme, l'équipe de Radio Prague vous a concocté une petite sélection. Enfin, disons plutôt que nous avons fait appel à quelques voix de la culture pour nous aider à nous y retrouver. Et on commence avec vous, Sarah Andria, bonjour.
Bonjour.
Alors vous vous êtes rendue au Kino Ponrepo dans la vieille ville.
Oui, exactement. Je suis allée donc au Kino NFA Ponrepo, qui est le cinéma national d'archives, l'équivalent de la cinémathèque française, mais à Prague. Et j'ai rencontré là-bas Krzysztof Peszek, donc, qui est le programmateur de cette nuit des musées, et il vous conseille ceci.
Je recommanderais d'aller au Naprstek Museum, le musée des cultures non européennes. On y trouve la collection unique de Wojciech Naprstek, qui était un philanthrope tchèque qui a voyagé partout dans le monde pour collectionner des objets, disons, ou des artefacts. Donc il y a une exposition sur les cultures africaines, les cultures américaines et les cultures asiatiques, ce qui est unique à Prague. Je crois qu'il y a une exposition sur la culture japonaise en ce moment. C'était aussi un grand défenseur de la modernité à la fin du 19e. Donc il y a cette exposition sur l'émancipation des femmes en ce moment. Donc j'encourage vraiment les visiteurs à se rendre dans ce petit musée situé sur Beltemské náměstí.
Et de son côté, Krzysztof Peszek vous a concocté un programme plein de surprises au NFA Ponrepo. 4 heures de projection, aller et venu en toute liberté comme à l'ancienne, et oui, mais avec une petite particularité. Cette projection sera en effet participative. Et pour ajouter du piment, il s'agira d'une projection de vidéos digitales piochées aléatoirement dans les archives nationales du Kino Ponrepo grâce à un algorithme créé exprès. Vous êtes prêts à tenter l'aventure ?
Eh bien, on est prêts, merci beaucoup. Sarah Andria, et à vos côtés, il y a Daria Margolina. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, Daria, vous avez joué à domicile et vous avez juste traversé les couloirs de Český rozhlas, la radio nationale tchèque, pour aller rendre visite à nos confrères de Radio Vltava, la radio culturelle tchèque.
Alors effectivement, j'ai rencontré donc Petr Gojda, qui est dramaturge à la radio Vltava de Český rozhlas. Il sélectionne des textes littéraires, de la poésie et des essais, entre autres, pour les analyser et questionner les auditeurs.
On l'écoute.
Je vais aller voir des petits musées de la faculté de sciences naturelles de la Université Caroline. C'est des musées qui sont tous à Prague 2, pas très loin d'Albertov. Je pense que c'est intéressant parce que c'est des très petits musées ne sont pas toujours ouverts. Dans le cas, par exemple, de musée minéralogique que je vais aller voir, c'est un musée de très petit, mais c'était fondé au 19e siècle et ça conserve toujours les anciennes vitrines avec des pierres, comment c'était fait au 19e siècle. Alors c'est un peu de voir la science analogue, pas comme dans les grands musées, que c'est toujours interactif, c'est toujours qui est bien. On peut voir l'histoire de science. Alors ça c'est un. Et le deuxième, c'est le musée Herglitschka de l'Homme, qui est un musée qui était fondé dans les années 20. Et ça a vraiment des trucs très intéressants, même bizarres, je dirais, sur l'homme, sur l'évolution d'homme. Il y a pas mal de squelettes, d'écrans de l'homme, des primates aussi, mais il y a aussi, par exemple, des masques posthumes des gens célèbres tchèques, comme Masaryk, comme Dvořák, des écrivains. Il y a aussi une exposition d'écrans déformés et déformités d'écrans qui, moi, je trouve intéressant, je ne sais pas, même inspiratif. Voilà, il y a aussi des trois momies égyptiennes. C'est toujours dans des anciennes vitrines. C'est un musée qui a 130 mètres carrés. Et c'est tout petit. Je pense que c'est vous vite, mais ça peut être très intéressant.
Petr Gojda au micro de Daria Margolina. On prend bonne note de ses conseils, merci. Quant à moi, je suis allé demander conseil à Sandra Baborowska. Elle est commissaire d'exposition à la galerie municipale de Prague et voilà ce qu'elle vous propose.
We are recommending now exhibition that has name Sounds, Codes and Images.
Je vous recommande l'exposition qui s'appelle « Son, code, image, l'expérimentation acoustique en art visuel ». C'est à la maison de la Cloche de Pierre qui fait partie de la Galerie municipale de Prague. C'est l'exposition de ma collègue Jitka Hlaváčková. Elle a fait un gros travail de recherche sur les sons et leur représentation, sur la possibilité de voir le son. Et cette recherche commence au début du XXe siècle, à la période de l'avant-garde jusqu'à nos jours. C'est une exposition internationale parce qu'on peut y voir des artistes futuristes comme Luigi Russolo ou Woody et Steina Vasulka. Les artistes les plus connus sont sans doute František Kupka, Zdeněk Pešánek, Milan Grigar et Milan Knižák.
Zdeněk Pešánek, Milan Grigar et Milan Knižák.
Et nous ne saurions que trop vous recommander également l'exposition qu'elle propose jusqu'en septembre à la Bibliothèque municipale de Prague. Karafiati à Samet, œillets et velours, et revient sur les liens trop peu connus entre la révolution des œillets au Portugal et la révolution de velours en Tchécoslovaquie, qui fête cette année respectivement leurs 45 et 30 ans. Plus d'infos samedi dans notre émission Culture sans frontières, où nous recevrons Sandra Baborowska et Adelaide Jinga, les deux commissaires de l'exposition.
Et c'est ainsi que se termine votre programme d'information en français. On se retrouve demain et d'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur radio.cz/fr pour retrouver tous nos reportages et entretiens et sur les réseaux sociaux, notamment sur notre compte Twitter qui doucement mais sûrement se rapproche de la barre des 1000 abonnés. Merci beaucoup. Ahoy.